République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 16 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran et la Turquie sont prêts à faire passer leurs relations du niveau actuel à une coopération globale, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Le commandant de la marine iranienne s'est rendu en France. L'aviation saoudienne a poursuivi ses attaques barbares contre le Yémen. Les dirigeants russes et égyptiens se sont entretenus au téléphone des questions d'intérêt commun et des relations bilatérales. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dès lundi qu'en finalisant après la feuille de route de développement de la coopération dont le projet est à l'ordre du jour de l'Iran et de la Turquie, les deux pays sont prêts à faire passer les relations du niveau actuel à une coopération globale. Lors d'une réunion à Téhéran avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu, le président iranien Ebrahim Raisi a évoqué le développement des relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines commercial et économique, comme étant bénéfique pour les deux nations, en déclarant « En finalisant la feuille de route de développement de la coopération dont le projet est à l'ordre du jour des deux pays, l'Iran et la Turquie sont prêts à faire passer les relations du niveau actuel à une coopération globale. » Le président Raisi a appelé les relations étroites entre les deux voisins dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la région et a déclaré que la coopération régionale entre l'Iran et la Turquie doit se transformer en coopération internationale. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la date de la visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique lui a été annoncée, que M. Grossi se rendra prochainement à Téhéran pour y rencontrer le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et également le ministre iranien des Affaires étrangères. Concernant la visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a précisé, M. Grossi entretient des relations très étroites avec l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et l'ambassade d'Iran à Vienne. M. Grossi a été invité à Téhéran et la date a été suggérée pour son voyage et bientôt il partira pour l'Iran et nous attendons sa réponse, annoncée de Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le commandant de la marine de l'armée iranienne a pris l'avion à destination de la France afin de participer au 8e symposium naval de l'OTAN indien à l'invitation de son homologue français, le commandant de la marine iranienne, l'amiral Shahram Irani, s'est rendu en France pour participer au 8e symposium naval de l'océan Indien. L'amiral Irani a précisé sur les objectifs de sa visite que le symposium IONS est centré sur la sécurité de l'océan Indien, sur laquelle les pays riverains de cet océan travaillent dans diverses dimensions, notamment dans la lutte contre les pirates, de la sécurité maritime et l'assistance aux navires en détresse. La République islamique d'Iran a préparé un document et le présentera au commandant roi des marins des pays riverains de l'océan Indien, dans lequel nous discuterons de la sécurité de cet océan, a ajouté le commandant de la marine iranienne. Ce que nous poursuivrons en marge du symposium d'IONS, ce sera la tenue des réunions bilatérales, trilatérales et multilatérales avec la plus haute priorité d'améliorer le niveau des relations maritimes. La langue de la mer est la langue commune de tous les pays. Les conditions de la mer apportent la sécurité et la paix dans le monde, a-t-il conclu. L'aviation saoudienne a poursuivi ses raids barbares contre le Yémen en lançant une frappe aérienne dans la province, sur la province côtière occidentale de Hudaïda, tuant et blessant 10 civils. La frappe aérienne a frappé une zone à l'est de Hudaïda dans la nuit de dimanche, dans une autre violation de l'accord de Stockholm de 2018 entre les parties belligérantes. Les médias yéménites ont cité des sources locales disant que le raid aérien avait tué 3 personnes et blessé 7 autres. Le correspondant d'Al-Mayadin a cité des sources disant que le retrait soudain des militants soutenus par les Émirats arabes unis, dirigés par Haïssam Taher, des régions sud de Hudaïda, a été suivi de différents graves non déclarés entre les factions soutenues par les Émirats arabes unis dans l'ouest du Yémen. Selon Al-Mayadin, toute la province de Hudaïda a été libérée, à l'exception du district d'Al-Khoura. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président russe Vladimir Poutine, se sont entretenus par téléphone pour discuter des questions bilatérales, selon la présidence égyptienne. Dans un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont discuté de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'industrie et de l'énergie, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi. Les deux dirigeants ont également passé en revue l'avancement du chantier de la centrale nucléaire d'El Daba dans le nord-ouest de l'Égypte, ainsi que l'établissement de la zone industrielle russe à l'est de Port Saïd, a ajouté le porte-parole de la présidence égyptienne. Des ministres, des officiers, des experts ainsi que des autorités administratives du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie ont mis en place à Bakel, dans l'est du Sénégal, un schéma d'aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal. La rencontre a été présidée par le ministre sénégalais des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Redé Gueye, a rapporté l'agence de presse sénégalaise APS. Selon lui, en fait, ce schéma d'aménagement transfrontalier intégré va concrétiser la volonté des pays de nouer un partenariat fécond dans l'élaboration des outils de planification et le partage d'expériences. Le ministre des Sénégalais des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a ajouté qu'il permettra de renforcer les villes frontalières du fleuve sénégalais qui constituent des lieux où se consolident les liens sociaux entre les peuples. il concrétisera également la volonté des États de nouer un partenariat fécond, a-t-il souligné encore. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Et Ankara peuvent passer un partenariat renforcé, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré lundi qu'en finalisant la feuille de route de développement de la coopération, dont le projet est à l'ordre du jour des deux pays, l'Iran et la Turquie sont prêts à passer les relations du niveau actuel à une coopération globale. Lors d'une rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu à Téhéran, Seyyed Ebrahim Raisi a évoqué le développement des relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines commercial et économique, comme étant bénéfique pour les deux nations, déclarant en finalisant la feuille de route de développement de la coopération dont le projet est à l'ordre du jour des deux pays, l'Iran et la Turquie sont prêts à passer les relations du niveau actuel à une coopération globale. Le président Raisi a appelé les relations étroites entre les deux voisins dans l'intérêt de la paix et de la stabilité dans la région et a déclaré la coopération régionale entre les deux pays doit se transformer en coopération internationale et ce type d'interaction peut être efficace dans les équations globales étant donné la position importante des deux pays. Dans une autre partie de son discours faisant référence au point de vue de la République islamique d'Iran sur la capacité des pays de la région à résoudre leurs problèmes sans ingérence étrangère, M. Raisi a déclaré « La présence d'étrangers n'apporte rien d'autre que de l'insécurité, des tensions entre les nations et les gouvernements de la région car la présence de 20 ans des États-Unis en Afghanistan n'a abouti qu'à des meurtres, des effusions de sang et des destructions pour devenir clair que les problèmes de l'Afghanistan pourraient être résolus par le peuple de ce pays et avec l'aide de ses voisins. Le président Raisi a également souligné que les actions de Daesh sont au détriment de tous les pays de la région, tout en affirmant comme l'ont déclaré les responsables américains, le Daesh est créé par eux et naturellement ils travaillent sur ordre des Américains et tuent dans divers pays comme leur mandataire. Déclarant que la présence de ce groupe terroriste n'importe où dans la région se fait au détriment des nations, le président Raisi a précisé la lutte contre le terrorisme et le crime organisé peut être au centre de la coopération entre Téhéran et Ankara et l'Iran est prêt à améliorer de coopération dans ce domaine. Se référant aux propos du ministre turc des Affaires étrangères sur la coopération conjointe avec l'Iran pour stabiliser et développer les relations commerciales dans le Caucase et du Sud, Ebrahim Raisi a déclaré « La République islamique d'Iran a un lien religieux et culturel profond et de longue date avec la République d'Azerbaïdjan et la Turquie et nous ne devons pas permettre que certaines actions des étrangères nuisent aux relations. »
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. L'actualité reste toujours largement dominée par les évolutions au Yémen où les forces yéménites et le comité populaire du Yémen, Ansar Allah, se sont emparés du port stratégique de Hodeïda dans l'ouest du pays après la fuite des mercenaires soutenus et financés par les Émirats arabes unis. En effet, les mercenaires émiratis se sont brusquement retirés de ce port stratégique et désormais Ansar Allah et les forces alliées contrôlent totalement non seulement ce port mais aussi la route reliant en effet l'ouest du pays à la capitale Sanaa. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser l'importance de ce rebondissement sur le terrain au Yémen et ses répercussions géostratégiques, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le plan politique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Décidément, c'est la saison des surprises émiraties au Moyen-Orient. Alors même qu'on parle toujours de la visite éclair du ministre des Affaires étrangères émirati, Al-Nahyan, à Damas, où il a serré dans ses bras le président Assad, contre qui les Émirats de MBZ se sont battus aux côtés des Américains, des Israéliens, des Saoudiens, des Turcs et des Qataris, 10 ans durant, embrassade qui a même poussé certains analystes à y voir un piège fait de pétrodollars tendu à Assad, où il risque d'y tomber sans trop le comprendre, quitte à blesser ses alliés russes et de la résistance. Ben Zayed vient encore de prendre de court amis et ennemis en retirant de façon parfaitement éclair ses mercenaires du nord du port stratégique yéménite de Mokka à Hodeïda, et ce, au profit d'Ansar Allah, qui, depuis vendredi soir, s'en est emparé en un quart de tour, prêt à imposer totalement son contrôle sur le port de Hodeïda. Ce qui veut dire que d'ici quelques heures, la résistance yéménite aura pris la côte ouest au moment où la prise de Marib n'est qu'une question d'heures ou de jours. Les sources arabes parlent d'un stratagème et certains analystes yéménites dénoncent un coup de MBZ destiné à mettre sous pression ses propres mercenaires pour qu'ils rallient les combats à Marib et ralentissent la progression d'Ansar Allah. Rayalium écrit « C'est le choc et la confusion ». Une déclaration conjointe des mercenaires déclare qu'il n'y avait plus aucune raison de maintenir des positions autour de la ville de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, soit cette zone stratégique qui relie directement le port à la mer Rouge. Ce retrait des forces émiraties reste d'autant plus ambigu qu'aucune explication officielle n'a été fournie. Mais il est probable que leur retrait s'inscrive dans le strict objectif de faire pression sur le contingent émirati à Taïz pour que ce dernier quitte ses positions et parte à Marib combattre Ansar Allah. Marib est chaque jour un peu plus proche de la libération. Riche en gaz, elle est le dernier bastion de Riyad au centre du Yémen. Le jeu est presque terminé et Ansar Allah s'apprête à se diriger une fois celle-ci libérée vers Shabwa, puis Hadramout. Dès lors, il est compréhensible qu'on quitte Hodeïda pour empêcher l'effondrement de Marib. Mais il y a une chose qui cloche. Pourquoi mettre cet accord en œuvre justement maintenant, à un moment où les batailles s'intensifient et les deux parties sont engagées dans un conflit décisif à Marib? Y a-t-il eu un deal en coulisses entre Émirats, pilier de l'axe atlantiste d'une part, et la résistance yéménite de l'autre? Une capitalisation certainement, car ce retrait ressemble à peu près à ce qui se déroule en ce moment même et de façon parfaitement surprenante en Syrie, où Ben Zayed débarque avec ses pétrodollars pour ériger une centrale électrique avant de se rendre en Jordanie et annoncer à Abdellah II être prêt à aider à la mise en œuvre du pipeline arabe. Cela s'appelle une capitulation qui ne dit pas son nom, comme l'a précisé le secrétaire général du Hezbollah dans son récent discours.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Vaucluse avec M. Bernard Cornu, analyste politique et depuis Paris avec M. Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. M. Hugon, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous, à votre invité.
M. Hugon, alors, près de 3 jours après la visite du ministre émirati des Affaires étrangères à Damas, les mercenaires, les miliciens liés aux Émirats, financés plutôt par ce pays, se sont brusquement retirés du port stratégique de Hodeïda. Dans quel contexte s'inscrit ce retrait? À quoi ressemble ce concours de coïncidences? Et que pensez-vous, M. Hugon, du timing et des objectifs de ce retrait soudain?
Alors, moi je dirais que si on connaît un petit peu la géographie et la configuration du terrain au Yémen, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'Afghanistan. Alors il faut bien savoir que tous ces mercenaires qui ont été envoyés se retrouvent aujourd'hui dans une position extrêmement difficile face à une résistance yéménite qui est quand même très forte aujourd'hui. Donc je dirais que ça me fait beaucoup penser au bourbier afghan, parce qu'il est absolument très très difficile pour tous ces mercenaires, en dehors de détenir un port ou une ville à droite à gauche, qui est certaines petites régions faciles d'accès. Il faut bien savoir que le Yémen a une configuration générale très montagneuse, très difficile à tenir. Et je pense que si aujourd'hui on décide de se retirer, il y a bien sûr un motif politique, c'est une évidence, mais il y a également un motif militaire. C'est une région qui serait extrêmement difficile à tenir de la part des mercenaires émiratis, mais également avec le soutien de l'Arabie Saoudite. Hein. Financièrement, il faut bien savoir que l'Arabie Saoudite a beaucoup financé des points de déstabilisation comme ça dans le Golfe. Et je pense que c'est une situation qui est inextricable aujourd'hui. Alors, en dehors du problème purement politique qu'on abordera dans le débat après, mais il faut bien savoir que c'est une région extrêmement difficile à tenir, avec un certain nombre de courants différents qui ont des ambitions différentes. Et à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure solution pour ces mercenaires, s'ils ne veulent pas être détruits par la résistance yéménite, c'est de se retirer. Alors je vous dis bien, il y a le volet politique après, on pourra l'aborder un peu plus tard dans le débat si vous voulez, mais c'est un problème purement physique aujourd'hui de la part de ces mercenaires de pouvoir tenir un certain nombre de positions stratégiques. Hein. Alors tenir un port ou tenir une capitale ou tenir une petite région, c'est possible. Ça, en théorie, on peut tout faire, mais sur le terrain, ça devient extrêmement difficile quand on arrive à une configuration générale de terrain qui est extrêmement montagneuse, où on ne peut pas se déplacer facilement. Donc c'est un bourbier un petit peu comme les Américains l'ont connu au Vietnam ou certains terroristes en Syrie qui se sont retirés par obligation parce qu'ils n'avaient plus du tout le choix de pouvoir choisir une autre option.
Merci infiniment pour ces précisions. M. Hugon, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Bernard Cornu, analyste politique. M. Cornu, bonjour. Merci bonjour. Infiniment d'être en ligne avec nous, M. Cornu.
Bonjour.
M. Cornu, alors pour M. Hugon, là, dans cette décision imprévue, dans ce retrait soudain des forces soutenues par les Émirats arabes unis, il y a à la fois des motifs politiques et militaires. Pour certains, il s'agit là d'une capitulation sur le terrain de la part des mercenaires liés aux Émirats. Pour certains autres, il faudrait peut-être voir un stratagème de la part du prince héritier émirati destiné à faire pression sur ces mercenaires pour qu'ils quittent le port stratégique de Hodeïda et rejoignent en effet les combats à Ma'arib dans l'objectif de ralentir l'avancée des forces yéménites. Quel est votre commentaire avant de revenir justement à l'aspect au volet politique de cette décision sur le terrain? Comment vous voyez les choses, Monsieur Cornu?
Les deux endroits, Hodeïda, le port sur la côte, et Mareb, qui est dans une plaine intérieure, ouvrant vers Chavoy et la Hadramaout, et ensuite Aden, c'est ces deux endroits stratégiques pour des raisons différentes. D'une part le port, et d'autre part la région où a été trouvé le pétrole il y a plus de 20 ans à Chabois, et aussi du gaz dans la région de Mareb, donc qui est stratégique, et qui est le couloir qui permet d'accéder à Aden. Donc je pense effectivement, il y a eu des combats très forts à Mareb ces jours-ci, mais il y a eu aussi cette visite ordonnée par MBZ de son ministre des Affaires étrangères auprès du président Assad en Syrie, qui, à mon avis, n'est pas un piège, mais une volonté de faire cesser la participation des régimes arabes du Golfe au financement de cette guerre en Syrie, qui c'est eux qui financent depuis le début des mercenaires et des armes avec des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, et la complicité même, puisqu'il y a eu des coordinations. Donc je pense que le Golfe commence à comprendre que cette guerre en Syrie est vaine. Il y aura prochainement sans doute une réunion de la Ligue arabe pour décider, discuter et ensuite, espérons-le, décider du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Voilà, donc je pense, j'espère que c'est une démarche sincère de la part des Émirats arabes unis et qui devrait être suivie normalement d'une réaction assez semblable de Qatar qui pour l'instant résiste un peu et de l'Arabie saoudite qui, si elle le fera en dernier. Je pense aussi à l'attitude des Saoudiens sur la guerre au Yémen, qui a été violemment critiqué par une autorité, une personnalité libanaise devenue ministre, ce qui a fait la crise dont on a parlé récemment. Mais je pense que ceci souligne la lassitude de l'Arabie après celle des Émirats sur cette guerre au Yémen. La perspective du déclin de la production de pétrole souhaitée par les Occidentaux au nom de la lutte pour le climat est aussi un signe que les pays arabes pétroliers devraient se préparer à une hausse des taxations en Occident via la taxe carbone ou d'autres moyens et donc à la décroissance de la demande mondiale. Et donc sans doute aussi à une décroissance des prix face à une offre qui serait trop abondante. Et donc ces pays, l'Arabie saoudite, les Émirats, doivent se préparer à un réel changement de leur stratégie de développement économique. Compter moins sur les exportations de pétrole et de gaz et compter plus sur leur propre force, le développement des formations, le développement de la transformation de biens industriels. Voilà. Donc je pense que ce mouvement est sincère, initié par les Émirats, qui ont sans doute une vision du long terme un peu plus aiguë, un peu plus affinée que celle de l'Arabie saoudite, qui a seulement pris des consultants pour faire sa vision 2030 et n'est pas encore engagé réellement dans une transformation profonde de l'économie et de la société, malgré les dires, malgré les proclamations qui sont surtout de la communication plus que des réalités. Et de toute façon, ces changements en Arabie sont difficiles à assumer.
Merci infiniment, M. Cornu, pour ces précisions. Restez avec nous. M. Hugon, alors sur le terrain, justement, vous avez parlé de ce motif militaire. Désormais, alors, la libération de cette province stratégique de Ma'arib semble imminente. Et en Sarallah, et les forces alliées contrôlent, en ce qui concerne le port stratégique de Hodeïda, contrôlent ce port et la route qui relie en effet ce port stratégique, cette zone stratégique à la capitale Sanaa. Quelles seront les répercussions, M. Hugon, géostratégiques et géopolitiques, alors de cette victoire, non seulement sur le plan national au Yémen, mais aussi sur le plan régional?
Alors, il est clair que de toute façon, les mercenaires qui ont été envoyés au Yémen ont clairement perdu la guerre, si je puis dire, enfin, c'est cette guerre civile, hein, pour essayer de conquérir quelques territoires comme ça. Moi, je pense qu'il y a, dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on va assister à un grand bouleversement de la géopolitique dans toute la région, Yémen, Émirats, Arabie Saoudite. Il faut bien savoir que ces pays ont eu un très fort développement économique depuis une cinquantaine d'années maintenant, 50-60 ans, je dirais, par une demande croissante de produits pétroliers, hein, et de gaz, bien évidemment. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en Europe et aux États-Unis, on développe de plus en plus des énergies alternatives. Donc, on va avoir une surabondance de ces produits pétroliers, ce qui va bien sûr entraîner certainement une chute de leurs revenus et une chute de leur PIB, hein, de produits intérieurs bruts. Donc, ça pose un énorme problème économique. Il faut bien savoir que ces pays n'existent que par le pétrole. Ils n'ont pas de développement interne significatif qui leur permettrait de pouvoir avoir une indépendance comme la plupart des pays qui peuvent être autour, comme l'Iran, comme le Liban, comme la Syrie. Ce ne sont pas des pays qui ont construit et qui se sont servis de cette manne financière pour construire une industrie et pérenniser une situation économique, je dirais, plus classique. Donc, il est vrai que dans les 10 ans qui viennent, on va assister à un effondrement de toutes ces monarchies qui ont fait, je dois dire, un petit peu n'importe quoi avec cette manne pétrolière et n'ont pas pensé au long terme. Ils ont travaillé sur le court et le moyen terme. On sait très bien qu'en Arabie Saoudite, quel industriel européen viendrait monter une usine en pleine Arabie Saoudite? C'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera pas, en dehors de petites industries locales sur l'eau, sur des jus de fruits ou des choses comme ça qui peuvent être épisodiquement, je dirais, construits dans cette monarchie. Donc ce sont toutes des monarchies avec des économies extrêmement fragiles. Donc on va assister à cet effondrement. Je pense qu'on n'en est pas très loin d'ailleurs, puisque je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, on va avoir un effondrement économique au niveau mondial comme on a très peu connu dans l'histoire. Et ces pays-là vont être extrêmement touchés. Sans compter que, bien sûr, en ce qui concerne le Yémen, puisqu'on parle du Yémen aujourd'hui, on a découvert de grandes nappes de pétrole et de gaz, on s'aperçoit qu'on aimerait bien, enfin, certaines monarchies autour aimeraient bien pouvoir mettre la main sur ce volet économique de leur économie. Alors, il est clair que la résistance s'est organisée et aujourd'hui pose beaucoup, beaucoup de problèmes aux forces extérieures venues déstabiliser ce pays. Il faut bien savoir que dans ce genre de monarchie, même s'il est extrêmement difficile de renverser un gouvernement, hein, on l'a vu dans différents points de la région, hein, dans différents pays de la région, malgré tout, il n'en reste pas moins vrai que quand on envoie des mercenaires quelque part, on applique, je dirais, le procédé du pouvoir de nuisance qui peut réduire à néant des efforts économiques. Et c'est ceci qui est extrêmement grave aujourd'hui dans la région, c'est que ces monarchies-là n'existent que par le pétrole et vont bientôt s'effondrer car ils n'auront pas pensé au long terme et ce qui va créer une grande zone de déstabilisation de la région.
Merci, merci, merci encore, M. Hugon. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors il y a eu récemment un exercice quadripartite Tel Aviv, Washington, Manama et Abu Dhabi en mer Rouge. Alors, dans quelle mesure les évolutions au Yémen, la libération prochaine de Ma'arib et bien entendu le contrôle du port stratégique d'Hodeïda par Ansar Allah pourraient changer en effet le rapport des forces et avoir un impact considérable sur les équations géostratégiques au niveau régional?
Je pense que s'il y a des négociations discrètes pour faire cesser la guerre au Yémen, il y a aussi des négociations encore plus discrètes pour faire cesser la guerre entretenue en Syrie. Le pape, qui a un service diplomatique qui est très aiguisé, très bien informé, a envoyé récemment une autre personnalité du Vatican en Syrie. Donc ceci, à mon avis, est signe qu'il y a des négociations autour de ces deux conflits. Et c'est d'ailleurs cohérent avec la nécessité globale de réduire les productions d'énergie fossile. Il faut donc aussi calmer les guerres, arrêter les dépenses inutiles, destructrices liées à ces guerres, que ce soit au Yémen ou en Syrie. Donc je pense qu'il y a des négociations. C'est difficile parce que les pays occidentaux ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs initiales d'avoir voulu pousser la Syrie à l'autodestruction en entretenant des mercenaires et en les finançant, comme cela est maintenant bien connu, mais seulement des spécialistes et non pas du grand public. Je pense qu'il y a une nécessité d'arriver à la paix dans cette région, notamment aussi pour sauver le Liban.
Et en ce qui concerne le Yémen, monsieur.
En cours et politique.
Et en ce qui concerne le Yémen, monsieur Cornu, vous voulez dire qu'on pourrait s'attendre prochainement à une issue politique à la crise yéménite?
Oui, à une issue politique avec une négociation entre les équipes d'Ansar Allah et les différentes autres parties encore proches des milieux de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Espérons-le en tout cas.
On va terminer cette émission avec M. Hugon. M. Hugon, et pour vous, l'issue du Yémen semble envisageable?
Je pense qu'elle est envisageable, oui, parce que tout le monde a intérêt à arrêter un petit peu les, si je puis dire, puisque vous savez que ces opérations coûtent énormément d'argent et qu'aujourd'hui, la situation économique, même dans les monarchies du Golfe, n'est pas au beau fixe également. Donc je pense qu'il y a une diplomatie souterraine qui est très importante actuellement avec le Yémen. Et on va essayer, bien sûr, de trouver une issue politique qui soit acceptable par toutes les parties. Faut savoir que ce conflit a quand même fait beaucoup, beaucoup de morts déjà, a coûté beaucoup d'argent et pour un résultat quasiment nul. Donc, je pense que la seule solution politique aujourd'hui acceptable, c'est de trouver un accord entre toutes les parties, un accord qui soit acceptable par toutes ces parties de façon à arrêter cette déstabilisation. Moi, ce qui me gêne le plus dans toutes ces opérations créées par des mercenaires, c'est ce pouvoir de nuisance qu'ils ont sur la situation économique, mais également sur la situation humaine, puisqu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens blessés, il y a des enfants qui crèvent de faim. Donc je pense que la situation humanitaire est à prendre en compte. Malheureusement, on en parle rarement, ce qui est bien dommage, puisque bien sûr, ce sont des situations très très difficiles à vivre. Et ce que je regrette, c'est justement ce pouvoir de nuisance qu'utilisent notamment les Émiratis et les Saoudiens afin de déstabiliser un certain nombre de pays. Et ça, je suis vraiment catastrophé de voir que l'ONU, que l'Union européenne, que les États-Unis puissent encore accepter ce genre de situation.
Philippe Hugon, journaliste, reporter de guerre, Bernard Cornu, analyste politique, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le commandant en chef et du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, le général de division Hossein Salami, a qualifié les navires iraniens d'infrastructure fluide de la puissance navale du pays, affirmant avoir disposé de nouvelles technologies maritimes destiné à l'amélioration de la qualité des navires de combat. S'exprimant dimanche 14 novembre lors d'une inspection des unités de marine du CGRI dans le nord de l'Iran, accompagné du commandant de la force navale du CGRI, le général de brigade Alireza Tangsiri, le général de division Hossein Salami a déclaré que l'Iran possédait des technologies marines de pointe pour repousser toute agression, soulignant que la République islamique n'autoriserait aucune agression contre son territoire. Soulignant que le corps des gardiens de la révolution islamique ne permettra aucune agression contre les frontières de la patrie, le général Salami a ajouté que la fermeté de la nation iranienne et son soutien aux positions légitimes de l'ordre de la République islamique ont déjoué tous les complots de l'ennemi. Il a noté qu'avant la révolution islamique de 1979, toutes les structures de notre pays étaient sous le contrôle d'autres pays. Cependant, après la révolution islamique, nous avons atteint ce niveau élevé de puissance et de technologie, et cela a semé une peur dissuasive parmi les ennemis de l'Iran, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, nous avons maintenu notre domination maritime et élargi notre portée navale. À l'heure actuelle, nous possédons des technologies marines modernes. Le chef du CGRI a affirmé que la République islamique ne peut pas être empêchée d'acquérir plus de pouvoir et tout le monde doit savoir que nous ne laisserons personne s'immiscer dans les affaires de notre pays. Seule la nation iranienne doit décider de son sort, a insisté le général Salami, ajoutant « Notre message est que si quelqu'un ose de décider de notre sort, nous l'affronterions de manière décisive. » L'envoyé spécial de l'Iran pour l'Afghanistan a déclaré qu'après la défaite en Afghanistan, les États-Unis tentent de soutenir le groupe terroriste Daesh. Hassan Kazemi Qomi a ajouté « Le pays agresseur qui voulait gouverner l'Afghanistan depuis 20 ans essaie maintenant de renforcer les groupes Takfiri en Afghanistan après sa défaite. » Arrivé à Kaboul à la tête d'une délégation de haut niveau, il a déclaré aux journalistes que le but de sa visite était de discuter des questions relatives au gouvernement intérimaire, à la politique, à l'économie, à la sécurité et aux réfugiés afghans. « Nous respectons la volonté du peuple afghan et notre position est conforme aux souhaits du peuple afghan », a déclaré Kazemi Romi à un journaliste lorsqu'on lui a demandé de reconnaître le gouvernement taliban. Le représentant spécial de l'Iran pour l'Afghanistan a exprimé l'espoir qu'avec la formation d'un gouvernement fort et inclusif en Afghanistan, la stabilité prévaudra dans la région. L'envoyé spécial de l'Iran pour l'Afghanistan a ajouté « L'Afghanistan, comme la République islamique d'Iran, fait face à des sanctions occidentales oppressives et les deux pays essaieront de coopérer davantage en créant des frontières sûres. » Le représentant spécial de la République islamique d'Iran pour l'Afghanistan a déclaré que l'Iran a toujours soutenu le peuple afghan et qu'il se tiendra d'aujourd'hui aux côtés du peuple afghan. Au Yémen, après les remarquables percées d'Ansarallah à travers la province stratégique de Ma'arib et la chute du dernier bastion de la coalition d'agression saoudienne au Yémen, la libération de Hudaïda fait la une des médias qui couvrent la guerre au Yémen. L'Arabie saoudite a retiré ses mercenaires de la plupart des camps militaires du sud, notamment dans la province d'Al-Mahrah. Dans le même temps, il est de plus en plus difficile de trouver des mercenaires pro-émiratis dans cette région, bien que les Émirats arabes unis craignent qu'Ansarallah ne prenne le contrôle de la province d'Al-Mahrah. Il se focalise toutefois sur les côtes du sud, notamment les provinces d'Aden et les régions de l'ouest jusqu'au détroit de Bab al-Mandab. À Ma'arib, les forces de Sana'a, un certain nombre de tribus se sont déjà assis à la table du dialogue, espérant parvenir à un accord. D'autre part, tous les supplétifs de l'Arabie saoudite qui prévoient qu'ils ne seront pas bien accueillis par les habitants de Ma'arib devraient quitter la région. Les habitants de Ma'arib, pour leur part, opteront pour une solution qui pourrait les épargner aussi bien que leur ville. L'Arabie saoudite est plus que jamais déçue et frustrée d'aucune des forces et des tribus qui ont collaboré avec les Saoudiens pendant les 6 derniers mois n'ont rien pu faire pour arrêter, voire ralentir la percée des combattants d'Ansarallah. Même quand les Britanniques ont bloqué le projet par lequel les combattants d'Ansarallah progressaient vers Chabwa, ces derniers ont fini par se diriger plutôt vers le sud, où ils ont enregistré des exploits encore plus grands. Plus de 450 attaques de colons contre les Palestiniens depuis 2020 en Cisjordanie. De début 2020 à la mi-2021, des colons israéliens ont mené plus de 450 attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée sans que l'armée d'occupation israélienne n'intervienne dans la majorité des cas pour stopper cette violence, a affirmé dimanche 14 novembre une ONG israélienne. Dans un rapport d'une quarantaine de pages sur les violences perpétrées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée, l'ONG d'anticolonisation B'Tselem fait état de 451 attaques au début 2020 à septembre 2021, en excluant celles dans la vallée du Jourdain. Israël occupe illégalement depuis 1967 de la Cisjordanie aujourd'hui plus de 470 000 colons sont implantés dans plus de 250 colonies jugées contraires au droit international et réparties à travers ce territoire peuplé de près de 3 millions de Palestiniens. La colonisation de la Cisjordanie s'est accélérée ces dernières années sous la présidence de l'ancien président américain Donald Trump, dont le pays est le premier allié du régime israélien et dont l'administration avait déclaré que les colonies n'étaient pas contraires au droit international. Toujours selon cette ONG israélienne, une organisation qui qualifie depuis peu d'apartheid de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens, tout comme l'ONG Human Rights Watch, les attaques de colons tiennent en fait d'une stratégie de la part d'Israël afin de faire main basse sur davantage de terres palestiniennes. Plutôt que de prévenir les violences contre les fermiers palestiniens, l'armée d'occupation israélienne a développé un système de coordination qui traite les violences comme un phénomène établi, ajoute l'ONG. La Syrie participe pour la quatrième fois consécutive aux activités du Salon international des importations de Chine à Shanghai, au milieu d'une grande affluence du public chinois au pavillon syrien. Le responsable du département économique au sein de l'ambassade de Syrie à Pékin, Ziad Zaitoun, a expliqué dans un entretien avec le correspondant de Sanade dans la capitale chinoise que la Syrie participe à l'exposition depuis son lancement en 2018. Zaitoun a indiqué que comme résultat du succès qu'avaient réalisé les pavillons syriens dans l'exposition lors de ces sessions, le gouvernement de la ville de Shanghai a présenté un certain nombre d'offres pour les produits syriens tout au long de l'année, ce qui contribue à la propagation des produits des Syriens en Chine. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
à qui